Podcasté, dont vous pouvez la réécouter sur le site. On va laisser les collègues s'installer.
Pour lancer le vidéoprojecteur, je pense qu'il y a juste appuyé sur On.
Il faut demander au webmaster.
Il va chauffer. Peut-être 2-3 minutes pour le lancer. En fait.
Non, mais je vais. Il y a des bêtises d'absolu. Bien, donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième séance de l'année de notre séminaire, dont le cycle sur 2 ans porte sur l'architecture. Cette séance est plus particulièrement consacrée à architecture et religion. Donc la première intervenante qui est à ma droite, Anne-Marie Miller-Blaise, qui est maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en littérature et histoire culturelle britannique des 16e et 17e siècles. Elle est membre de l'équipe d'accueil Prisme à Paris 3. Elle est spécialiste de poésie religieuse. Elle a publié une monographie tirée de sa thèse, Le Verbe fait image, aux presses de la Sorbonne Nouvelle en 2010. Elle a eu la grande modestie de ne pas rappeler que ce livre avait obtenu le prix de la recherche de la SAES. J'avais le plaisir de lui remettre à l'époque, si je me souviens bien.
Tout à fait.
Voilà, donc je vous recommande cet excellent ouvrage. Elle s'intéresse également à l'histoire du livre, à l'histoire des circulations religieuses et textuelles en Europe et à la matérialité de l'expérience religieuse. Elle travaille depuis plusieurs années à un projet collectif d'anthologie de la poésie baroque européenne en traduction française à paraître chez Champion. En 2014 et 2015, elle a dirigé un second projet collectif Jeunes chercheurs sur les rapports entre littérature et culture matérielle de la première modernité, en partenariat avec plusieurs universités françaises, avec Queen Mary University et le Research Department du Victoria and Albert Museum de Londres. Les travaux issus de ce projet feront l'objet de plusieurs publications, notamment chez Garnier. Elle a également en cours de construction un carnet de recherche sur les objets de la littérature baroque. Donc je vais lui laisser la parole pour une trentaine de minutes. Ensuite, je présenterai la deuxième intervenante et nous procéderons comme nous le faisons habituellement, c'est-à-dire d'abord les deux communications et puis le reste de la séance consacrée à un débat qui porteront sur l'une ou l'autre, l'une et l'autre, des communications. Voilà Anne-Marie, merci beaucoup.
Merci à vous pour cette invitation, je suis ravie d'être là. Et je me souviens quand on avait parlé de cette séance la première fois, j'avais dit peut-être que je peux proposer quelque chose d'un peu nouveau sur l'architecture de la maison du pasteur, mais visiblement c'était plutôt la métaphore architecturale en poésie. Donc je vais en partie dire des choses qui sont dans... Tout s'ouvre, désolée, je voyais toutes mes notes. qui sont dans mon ouvrage, et je vais essayer de vous en donner une petite synthèse axée davantage sur la question de l'architecture, puisque c'est la thématique qui vous occupe en ce moment. Donc, je vais parler essentiellement de George Herbert et de son ouvrage, publié en 1633 à Cambridge, quelques mois après sa mort, The Temple, dont le sous-titre est Sacred Poems and Private Ejaculations. Alors, on va y arriver. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Ah, petit problème de connexion.
C'est bon.
Apparemment, oui. Il n'y a plus rien.
Ah, ça y est.
Ça y est.
Ça y est, mais ouais. Ça y est pas.
Alors... Je suis désolée pour ce petit cafouillage technique.
C'est bon.
Voilà, c'est bon.
Voilà. Pour moi, ce n'est pas bon, excusez-moi. Je préfère être comme ça. Voilà. Ah non,
il me met ici en mode présentation.
Ouais, je voulais avoir qu'une image à la fois. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire comme ça. Bien, donc vous voyez ici la page de titre de la première édition de 1633. Alors, ce recueil est très important pour l'histoire de la poésie, en fait, en Angleterre. Et la métaphore architecturale est présente, bien sûr, dès le titre de l'œuvre. Après cette publication, en fait, Herbert va faire beaucoup d'émules et on va voir se développer en fait toute une sorte de tradition de publication d'ouvrages contenant le titre, enfin dans le titre, cette métaphore architecturale, une sorte d'hommage rendu à Herbert, donc des émulateurs, des imitateurs, dont l'un est, vous voyez ici, The Synagogue or The Shadow of the Temple, Sacred Poems and Private Ejaculations, qui reprend le sous-titre même de Herbert avec la précision In Imitation of Mr. George Herbert. Ce livre-ci, un nouveau livre, un nouveau recueil poétique, est publié en 1640. Et puis nous avons un autre exemple encore, ce recueil de Richard Crashaw, Steps to the Temple, Sacred Poems with Other Delights of the Muses, qui est publié quelques années plus tard, seulement en 1646. Donc on voit qu'il ouvre une sorte de tradition et qu'on va l'imiter. Alors ce qui est intéressant, c'est que Harvey et Crashaw sont tous les deux connus en Angleterre comme des sympathisants royalistes et High Church. Et lorsqu'éclatent les guerres civiles, en fait, Crashaw, qui est alors pasteur de l'église de Little St. Mary's à Cambridge, va même prendre la fuite et se convertir au catholicisme. Sa fuite, il s'arrête au passage dans la communauté de Little Gidding, connue comme the Arminian Nunnery à l'époque. Donc il y a cette sorte de circulation apparemment high church autour de ce texte. Mais en fait, on constate une très très grande diversité du lectorat de Herbert au XVIIe siècle. Et on va trouver des échos de sa poésie dans les écrits de Anne Bradstreet, par exemple, hein, première poétesse américaine, puisqu'elle elle traverse l'océan et fait partie des colons puritains. Donc Herbert, d'ailleurs, son ouvrage est très rapidement exporté aussi en Amérique, où il est lu parmi les colons du Nouveau Monde. Un article récent aussi de Guillaume Quatalen dans le George Herbert Journal nous rappelle à quel point Herbert est lu par des non-conformists aussi et des presbytériens. Il cite plusieurs Écossais qui lisent encore Herbert à la fin du XVIIe siècle et qui recopient des passages de son temple. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on avait un tel succès de l'œuvre de Herbert parmi un lectorat aussi divers sur le plan confessionnel, et alors qu'il a recours à cette métaphore du temple, qui est un lieu de dispute, de discorde, dans les années où il publie ses posthumes, mais où est publié son recueil. Qu'est-ce qui fait qu'un lectorat si divers peut puiser, trouver une source spirituelle apparemment, et un modèle poétique dans une œuvre régie par une métaphore qui est problématique, en fait. Je vais d'abord dire quelques mots maintenant sur le mot « temple » lui-même, avant de continuer et d'essayer de répondre à ces questions. Hein, qu'est-ce qui fait l'attrait de l'ouvrage de Herbert et pourquoi sa métaphore architecturale n'est pas problématique à une si grande diversité de lecteurs. Donc, le titre pour aujourd'hui, c'était « Temple Made Temples Made of Words ». Pardon, ça saute régulièrement, je suis un peu embêtée. Je ne comprends pas pourquoi. Donc,
Désactiver le Wi-Fi.
Oui. Ah oui, d'accord. Alors attendez, je vais essayer de faire ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu, ça me perturbe un petit peu. Ça me déconcentre. Voilà.
Ah, je ferme moi aussi d'ailleurs parce que ça va faire exactement. Voilà. La même chose.
Ok. Et maintenant, voilà. J'espère que ça marche. Bien. Donc, le titre « Temples made of words » ou « Des temples de mots » est d'une certaine façon un petit peu redondant, en fait, si on regarde ce que nous dit l'étymologie, puisque « temple » dérive du terme « templum », le latin « templum », qui est un terme en fait de langue augurale qui désigne un espace carré délimité soit sur le sol, soit dans le ciel, à l'intérieur duquel l'augure va recueillir et interpréter des présages. Donc c'est en fait un lieu de signe déjà, un lieu d'écriture en quelque sorte, qui demande à être interprété. Et c'est aussi intéressant de savoir pour la suite de ma communication que c'est dérivé aussi du grec temenos, qui est l'enclos sacré temnien, le verbe temnien qui veut dire couper en fait, donc couper, découper, un espace de lecture et d'interprétation. Alors, dans la tradition calviniste anglaise, évidemment, le temple doit devenir ou redevenir plutôt un espace de lecture et d'interprétation de la parole divine. Et on sait que les réformateurs passent beaucoup de temps à dessiner des parallèles avec le temple de l'Ancien Testament, qui est un lieu de lecture et d'interprétation des textes, un lieu aussi qui a subi des destructions et des reconstructions, d'où d'ailleurs cette préférence parmi les protestants pour le terme de « temple » plutôt que « church ». Alors parmi la tradition historiographique qui a longtemps prévalu, les historiens de la Réforme, on a très longtemps mis l'accent sur l'iconoclasme et sur la question de la destruction, donc celle du désordre qui apparaît dans votre sous-titre pour ce projet. Et évidemment, ça fait maintenant peut-être une décennie et demie qu'on essaie de réécrire un petit peu les choses sous l'angle plutôt de la construction. Montrer qu'en fait, c'est pas exactement une destruction, l'iconoclasme n'est pas simplement une sorte de brisure d'image, de brisure de statue, de brisure de vitraux, mais qu'en fait, défaire est en même temps refaire, et que défaire peut coûter plus cher que de faire la première construction. Donc quand on regarde par exemple les comptes des églises, on remarque que pendant la crise assez violente d'iconoclasme dans les années 1640, le fait d'enlever des images dans les vitraux, de refaire des vitraux transparents, coûte extrêmement cher. Voilà. Et donc il y a un gros investissement en fait dans cette œuvre de reconstruction autre en fait. Ce n'est pas seulement une destruction. Alors, quand on consulte le catalogue en ligne eBow, on se rend compte que le terme « temple » est très présent dans beaucoup de titres pendant les années 1620, 1630, 1640, donc toutes ces années qui témoignent d'une tension grandissante entre les différentes parties à l'intérieur de non seulement de l'Église d'Angleterre elle-même, mais bon, de toutes ces disputes confessionnelles à l'intérieur du protestantisme. Et on remarque en particulier que le terme temple va apparaître dans des titres d'œuvres qui font partie d'une littérature de controverse anti-laudienne, donc plutôt pro-puritaine, pro-parlementaire. J'ai choisi deux sermons, en fait, juste pour illustrer un petit peu ce propos. Donc le premier, en fait, de John Brinsley, qui est un pasteur qui va en fait démissionner, sortir de l'Église d'Angleterre en fait à un moment. The glory of the latter temple greater than the former, a sermon preached at the construction and restitution of the parish church of Lixton. Ce texte-ci est publié en 1631 après avoir été fait l'objet d'une prédication en 1630. Brinsley passe pas mal de temps sur le fait que le temple de Jérusalem est un temple qui a été construit, reconstruit trois fois, et qu'un temple se construit, se déconstruit, se refait tout le temps, et que, en fait, ces reconstructions, évidemment, ont un sens théologique important. Et il passe beaucoup de temps à critiquer « the Romanish architectural preposterousness et puis il prend le temps de préciser cependant, il ne s'oppose pas à ce qu'il appelle « decent beautifying ». Il reprend un terme très codifié, « beautifying », puisqu'on accuse Laud et tous ces d'innovation et de « beautifying of churches ». Et il dit qu'il ne s'y oppose pas, mais je vais le citer ici en anglais, « but our negligence is not plea for their preposterousness ». Donc il y a une opposition ici entre « the negligence » d'une catégorie de l'Église qui serait moins high church et qui ne fait pas assez attention au bon entretien des églises, et de l'autre côté, the preposterousness de l'architecture high church. Donc, ensuite, il insiste beaucoup sur le fait que, évidemment, le temple, c'est d'abord le Christ, et que le temple de l'Ancien Testament est le type, ou l'antitype du Christ. Donc, cette idée est également centrale chez Thomas Adams. Donc, je vais sauter. J'ai pas pu prendre la page de titre, je suis désolée. Thomas Adams, qui lui aussi prêche un sermon intitulé The Temple, a sermon preached at Paul's Cross the 5th of August 1624. Et dans son sermon, il passe en revue toutes les différentes parties du temple de Jérusalem, les différentes parties architecturales, pour montrer qu'en fait tout ça est analogique à, aux chrétiens. The Temple of God is every Christian. Il fait attention à reprendre les trois parties principales du temple, avec the porch que vous voyez ici en italique, puis the holy place, et enfin the holy of holies. Et à chaque fois, en fait, vous avez une correspondance qui nous dit qu'en fait il s'agit réellement d'une architecture intérieure. Le dernier élément, c'est l'autel qui est mentionné en dernier ici, the altar for sacrifice, which is the contrite heart. Voilà, alors Herbert, lui aussi, dans son temple poétique, va adopter une démarche, enfin une structure tripartite, son recueil poétique est constitué de trois parties, comme vous le savez sans doute, the church porch, puis the church, et enfin the church militant. Il n'est pas sûr que ce soit lui qui ait donné le titre de The Temple à son œuvre, et ça c'est intéressant parce qu'on ne trouve pas ce titre qui est très connoté, bien sûr politiquement et théologiquement. On a deux manuscrits du temple, un qui est un manuscrit plus précoce et qui ne contient pas tous les poèmes du temple, mais on voit qu'il avait déjà vraiment préparé cette tripartition en fait du recueil, et on a bien les sous-titres The Church Porch, The Church et The Church Militant. Le deuxième manuscrit que l'on a, qui n'est pas un manuscrit holographe, ça se dit en français aussi, j'ai juste une hésitation, excusez-moi. Donc, qui n'est pas un manuscrit holographe, mais qui a été copié à Little Gidding, en fait, reprend bien sûr cette structure. Mais on ne sait pas si et contient le titre The Temple, mais on ne sait pas si ce titre a été rajouté ensuite lorsqu'il a été copié, lorsque le manuscrit holographe aurait été copié à Little Gidding. Voilà. On peut penser qu'il l'a quand même donné ce titre, qu'il l'a pensé, dans la mesure où en fait son temple a été publié très rapidement après sa mort, et où il y a eu un souci de respect assez scrupuleux de ses amis pour publier ce qui se trouvait dans ce recueil. Mais bon, voilà, on n'en a pas la preuve. Ce qui me semble important, c'est de voir ce que recouvre exactement la métaphore architecturale au-delà de cette structure tripartite, hein, qui nous fait passer d'une première partie un petit peu morale, qui est une sorte de cleansing, de purification en fait, et qui nous parle d'attitude, de la juste attitude à adopter dans différentes situations, à un church, donc the holy place, qui est un lieu de prière davantage, et où les poèmes sont conçus comme des sortes de prières, et enfin the church militant, qui est une sorte de poème un petit peu épique sur la trajectoire à la fois de l'Église et du péché à travers le monde, donc une sorte d'envoi en fait de ce recueil dans le monde ensuite. Donc en regardant de près la métaphore architecturale et la façon dont elle opère en fait dans ce recueil, il y a quatre points que j'aimerais, plutôt trois points que j'aimerais vraiment souligner. D'abord, le temple doit être un lieu dont la structure est visible. Le temple est caractérisé par sa solidité et sa transparence. L'architecture, la métaphore architecturale, qui est une métaphore structurante, est une sorte de gageur de transparence et de lisibilité. En effet, ce sera le deuxième point, le temple est un lieu parole plutôt qu'un lieu de vision. Donc premièrement, il est défini par la parole, c'est une sorte de chambre d'écho, C'est un temple de mots parce que le temple est un lieu scripturaire et de l'interprétation des textes. Donc le temple et son architecture doivent se conformer à l'exigence de la parole, de son interprétation et de sa circulation. Et puis le troisième point sera en fait évidemment le fait que l'architecture c'est une métaphore et donc l'architecture est forcément une architecture intérieure et ça c'est extrêmement important. Voilà. Donc pour revenir sur le premier point d'abord, sur la solidité et la transparence de cette architecture, on s'éloigne ici d'un temple qui, par ses choix d'architecture intérieure, ferait le choix d'effets mystiques, en fait. On voit dans son poème « The World », par exemple, il écrit une sorte de mini-allégorie sur le monde et il compare le monde à une construction, à un temple. Donc, dans ce poème, vous avez Love qui construit a stately house. Et ce qui m'intéressait en particulier, c'était la deuxième strophe. Then pleasure came, who liking not the fashion, pardon, je ne vois pas très bien, began to make balconies, terraces, till she had weakened all by alteration. But reverend laws and many proclamations reformed all at length with menaces. Okay. Donc c'est vraiment ici une mini-histoire aussi de la réforme, cette volonté de se départager du temple catholique, en fait, de l'église catholique, qui serait affaiblie par ses fioritures architecturales et ses nombreuses décorations, ses images, etc., et reconstruire quelque chose de plus solide ensuite, hein, qui a été réformé par toutes les injonctions et les élisabéthaines, etc. Voilà. Dans ce poème se dessine comme ça une petite histoire de l'iconoclasme anglais et Herbert semble partager l'idée exprimée dans les deux sermons hein, que j'ai mentionné, qu'en fait, l'Église romaine est trop pleine de fioritures et que ça affaiblit en fait sa structure. Voilà. La métaphore architecturale est elle-même un gage de lisibilité, de transparence, puisqu'elle va régir une structure dont il s'agit de montrer la structure. Et on voit Herbert ici se conformer finalement aussi à ce que Calvin attendait des temples chrétiens qui ne sont pas faits pour héberger des images superstitieuses et des ornements inutiles, mais au contraire doivent montrer que la majesté de Dieu est trop haute pour la vue humaine et ne peut pas être corrompue par fantômes qui n'ont nulle convenance avec elle. Bon, je le cite de façon un petit peu... Voilà. Les éléments architecturaux présents dans le temple lui-même, donc Herbert va choisir d'appeler certains de ses poèmes d'après des éléments architecturaux du temple, et en fait, il y en a assez peu, finalement. Donc, cette métaphore architecturale qui semble régir toute la structure, finalement, va être utilisée de façon... seulement ponctuel. On a le Perruantarium, qui est l'aspersoir, qui permet une sorte de purification à l'entrée du recueil. On a le linteau, superluminary. On a l'autel, the altar, the church floor, church monuments, et enfin windows. Et j'oublie church lock and key. Mais ça fait finalement assez de poèmes sur environ 180 poèmes, finalement, qui sont vraiment libellés comme étant analogiques à un élément architectural. Et quand on regarde de près tous ces poèmes, on se rend compte qu'il y a effectivement cette visée de transparence, de faire voir la structure et de ne pas occulter, en fait, les choses par les images ou par des éléments architecturaux qui empêcheraient de voir la solidité, l'unité de l'édifice lui-même. Dans The Windows, finalement, The Windows, c'est surtout le prédicateur lui-même qui devient une fenêtre transparente. Et les couleurs du vitrail qui sont admises sont en fait les couleurs de sa rhétorique. Donc on voit vraiment qu'on a une volonté de transparence et de communication néanmoins. Une mise en valeur de l'idée de prédication. Et tout le recueil poétique, d'emblée, dans The Church Porch, est défini comme une sorte de substitut de la prédication, puisque Herbert dit que « a verse may find him »
who a sermon flees and turn a delight into a sacrifice. Donc, il y a vraiment cette idée de la poésie décrite comme bait, comme appât, et qui devient une sorte d'analogue du sermon. Donc, ce qui me conduit au deuxième point, la lisibilité aussi de cet espace, donc transparence, mais aussi lisibilité. Le temple doit d'abord être un lieu de parole plutôt qu'un lieu de vision. Et évidemment, il faut que le temple s'adapte à cela architecturalement, comme on a pu le voir dans les églises effectives hein, d'Angleterre qui sont démantelées, reconstruites. On remplace les autels par des communion tables, etc. etc. Donc, elle doit se conformer, le temple doit se conformer à l'exigence de parole. Et Herbert, dans son poème The Church Porch, ce long poème luminaire au début de The Temple, explique que « In time of service, seal up both thine eyes and send them to thine heart, that spying sin, they may weep out the stains by them did rise. Those doors being shut, the eyes, all by the ear comes in. » Voilà, donc c'est vraiment cette, ce transfert de l'œil vers l'oreille et la nécessité donc de réformer la structure du temple pour qu'elle puisse s'adapter à cette exigence de parole. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, alors je vais sauter peut-être quelques petites choses auxquelles je reviendrai plus tard. Quand on regarde, donc Herbert a été lui-même pasteur en plus d'être poète, et lorsqu'il est d'abord entré dans les ordres, il a travaillé à restaurer une église qui était quasiment détruite, St. Mary's Church à Leiden. Et ici vous voyez une église qui restait quasiment en l'état, depuis cette restauration avec très peu de changements. Et ce qui est intéressant dans cette église, c'est que vous voyez en fait qu'il y a une particularité de l'église, c'est qu'on a deux chaires en fait, two pulpits. L'une est destinée à la prière et l'autre à la prédication. Donc on a même une sorte de redoublement hein, de la parole ici. Bon, alors après on peut voir que la prière, c'est quelque chose d'un petit peu ambigu hein, par rapport à la réforme aussi. Et qu'elle, voilà, qu'elle peut être liée à la liturgie, ce qui peut devenir gênant pour les plus radicaux ou pour une tendance plus puritaine. Mais en tous les cas, cette matérialité du temple reflète bien la prééminence qu'il accorde à la parole dans sa propre pratique du culte et aussi dans son propre temple poétique. Chez Herbert, on voit aussi, par exemple dans son poème Zion, donc je vais sauter quelques petites choses, non je ne sais plus où je l'ai mis Zion, il a changé de place subrepticement, je suis désolée. Ah non, il a sauté, bon il a disparu Zion, excusez-moi. Dans mes nombreux copier-coller, changement d'ordre, je l'ai perdu. Donc je vais peut-être... Je ne sais combien de temps que je parle.
Vous avez le temps.
J'ai le temps, très bien. D'accord.
20 minutes à peu près.
20 minutes. Ça fait 20 minutes que je parle.
Oui.
Ou c'est 20, beaucoup
presque déjà. 25.
Ouh là là, ah oui, alors je n'ai pas du tout le temps en fait. Mais alors... Donc Zion, dans Zion, il raconte en fait l'histoire du temple de Salomon et on voit bien dans ce poème non seulement ça a une volonté pédagogique hein, de raconter l'histoire du temple de l'Ancien Testament, volonté pédagogique qui est à l'œuvre aussi dans la, alors voilà cette image-ci, dans la Geneva Bible, où vous voyez que l'image ici peut avoir une fonction très pédagogique, en fait, hein, à l'opposé des images de dévotion, une image avec une légende qui explique bien les différentes parties du temple. Et dans Zion, il y a cette volonté aussi pédagogique de raconter l'histoire du temple et de ses différentes destructions, reconstructions. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait allusion à Dieu directement dans ce poème comme un architecte. Donc, il célèbre d'abord la beauté du temple Salomon, puis « Yet all this glory, all this pomp and state did not affect thee much, was not thy aim, something there was that sowed debate. Wherefore thou quittest thy ancient claim, and now thy architecture meets with sin, For all thy frame and fabric is within. Donc c'est l'idée d'un transfert de l'architecture vers l'intérieur du cœur du croyant et que c'est désormais le temple que Dieu a choisi d'habiter. Avec ce terme de frame aussi qui m'intéresse tout particulièrement, j'y reviendrai. Volonté pédagogique, lisibilité de la structure et temple intérieur, c'était le troisième point. L'architecture, en d'autres termes, doit rester métaphorique. Et ça, c'est important. Même lorsqu'elle s'incarne matériellement, il faut qu'elle soit métaphorique. Elle ne peut pas être prise à la lettre. Je renverrai ici au sermon de Brinsley, déjà cité, où il explique qu'il critique les catholiques, pas seulement les catholiques, mais aussi dans les années très tendues de tension que sont les années 1630, il critique la volonté de certains de Christ's passion plutôt que preach it. Donc cette idée que les choses deviennent véritablement ce dont elles ne devraient être que la métaphore, en fait. Voilà, donc chez Herbert, cette volonté de maintenir le temple comme une métaphore se lit notamment dans le poème liminaire de la partie centrale The Church. Donc ce poème s'appelle The Altar, c'est le poème qui apparaît en premier à l'intérieur de la collection centrale. Et vous voyez dès les premières lignes, A broken altar, Lord, thy servant rears, etc. Made of a heart and cemented with tears. Donc le temple qu'il érige est nécessairement un temple déjà brisé, c'est ce qui garantit sa légitimité théologique. Et il est fait d'un cœur. Voilà. Bien. Alors, dans ce poème-ci, on voit réapparaître l'idée de frame. Alors, je vais peut-être prendre le texte ici parce que je ne le vois pas sur mon propre écran. So a heart alone is such a stone as nothing but thy part doth cut, wherefore each part of my hard heart meets in this frame to praise thy name. Donc à nouveau cette idée de cadre ici qui fait référence à cette idée d'architecture qui serait l'acte de découper ou le temple comme un lieu où l'on découpe des formes et on peut les agencer. Mais évidemment, no workman's tool hath touched the same. Plus haut dans le poème, on voit qu'il n'y a qu'un seul architecte, évidemment, c'est Dieu l'architecte. Mais néanmoins, il y a un cadre, et un cadre qui prend la forme d'un autel ici, qui se dessine sur la page. Donc, ce poème est extrêmement ambivalent, en fait, dans son rapport à la métaphore architecturale, parce qu'évidemment, il fait la publicité d'un hôtel qui aurait été brisé, donc d'un hôtel protestant, en quelque sorte, mais en même temps, il laisse se dessiner sur la page un cadre qui est précisément celui de l'hôtel. Alors, est-ce que cet hôtel est métaphorique ou non ? Est-ce qu'il y a un message codé ? En tous les cas, le dernier poème de la section centrale de The Temple s'appelle Love 3, et dans Love 3, Herbert, le locuteur du moins, imagine un locuteur d'un poème qui arrive dans une maison et qui est invité à s'asseoir à une table, mais qui n'ose pas parce qu'il se sent unworthy. Et il est néanmoins invité à s'asseoir. Donc on a une sorte de substitution à la fin du recueil de l'autel pour la table de la communion, voilà, Herbert dit sa fidélité peut-être à cette destruction de l'autel et son remplacement par une table de communion. Mais il a aussi des paroles très ambiguës dans d'autres textes, et notamment dans son Country Parson, qui est une sorte de manuel de conseil au pasteur, où il explique que finalement, le problème c'est contentiousness sur la question, et qu'il dit quand même que s'asseoir, c'est un petit peu se prendre pour un saint, finalement, s'asseoir à une table, et qu'il vaudrait mieux respecter le geste de génuflexion. Donc on voit qu'il est constamment ambigu, très ambigu même, ce qui explique aussi ce lectorat si divers de son œuvre, en fait. Alors, je pense que j'arrive à la fin de la demi-heure, quasiment.
Vous pouvez conclure.
Je peux conclure, voilà. Donc, je vais sauter un certain nombre de choses. Mais ce sur quoi je voulais peut-être finir, c'est notamment dans ce poème The Altar, le fait qu'il s'agit vraiment d'un temple fait de mots, puisqu'il désigne these stones avec le déictique, hein, comme les éléments qui lui ont permis de construire cet autel. Et donc on voit bien que les éléments de construction même du temple sont des mots, avec le jeu sur les majuscules, etc. Il renforce cette idée. Il nous montre que la page de son recueil poétique devient en fait un temple au sens propre du terme, où l'on découpe un espace dans le ciel, et ces signes vont ensuite conduire vers l'interprétation de quelque chose qui dépasse en fait la page. J'ai pas le temps de m'y attarder, mais c'est important de noter aussi que Herbert, c'est quand même son temple, c'est un jalon très important dans l'histoire de la poésie et du recueil poétique en Angleterre, et que son recueil est le premier à être à la fois si attaché au déploiement du poème sur la page, donc la page qui devient cet espace consacré en fait, et à la structure extrêmement complexe de tout un recueil où on a toutes sortes de jeux, en fait, de citations, de renvois, mais qui ne sont pas si lisibles, finalement, que la métaphore architecturale pourrait laisser entendre, et qu'en fait, les choses sont toujours à interpréter plus avant. Donc, c'est vraiment un recueil poétique innovant, et il compare, en fait, ce recueil poétique à A Book of Stars, ce qu'il appelle A Book of Stars, dans son poème A Holy Scriptures 1, et en fait, où il nous rappelle que la Bible elle-même contenait toutes sortes d'astérix sur le côté, enfin, c'est encore le cas parfois, avec des références à d'autres versets. Donc son recueil poétique est un lieu consacré, comme la page consacrée de la Bible. Son recueil est un recueil consacré, mais de façon assez assez ironique, cette consécration de la page du recueil poétique va aussi contribuer à constituer la poésie en chant indépendant et va permettre à d'autres aussi, en s'inspirant de cela, du fonctionnement de son recueil, de faire des recueils poétiques qui ne sont plus des recueils de dévotion et donc où la page est consacrée à autre chose qui serait peut-être la religion, la poésie ou quelque chose comme ça. Voilà.
Merci. Merci Anne-Marie Miller-Blest pour votre contribution très, très érudite, hein, à la thématique de notre séminaire. Pardon de vous être imposé cette règle des 30 minutes, mais vous aurez l'occasion dans le débat de reprendre.
Tout à fait, je suis ravie de ne pas parler pendant toute une heure.
Voilà, on aura l'occasion dans le débat, si vous voulez réillustrer d'autres points, on pourra le faire.